Mesdames, Messieurs, même dans le contexte d'une session dédiée par les organisateurs à écrire l'histoire des migrations, il est délicat d'introduire un sujet, les Grecs et les autres au Proche-Orient hellénistique, un sujet qui, à première vue, se situe loin des préoccupations et des défis d'aujourd'hui, ces préoccupations et ces défis qui ont précisément incité le Collège à mettre sur pied le colloque auquel nous participons. Dans le même temps, force est de rappeler que l'historien n'est pas une monade isolée hors du temps et de l'espace. J'emprunte l'expression au grand historien d'Antiquité que fut Édouard Ville dans un article publié en 1885 sous le titre « Pour une anthropologie coloniale du monde hellénistique », fortement inspiré des analyses de Georges Balandier relatives au rapport entre colons et indigènes dans l'Afrique contemporaine. Édouard Ville y rappelait à juste titre combien les visions historiennes des migrations grecques entre la Méditerranée et l'Asie centrale, dans les traces ouvertes par Alexandre, ont été influencées par le présent triomphant de l'Europe coloniale, et il suggérait, non moins justement, que nos recherches et nos réflexions sur le monde hellénistique doivent être menées à la lumière du dévoilement des arrière-plans et des conséquences du colonialisme moderne. Quelques années plus tôt, l'historien faisait déjà l'observation suivante, je cite, chaque époque lit l'histoire à sa façon. Nulle époque n'est sans doute mieux faite que la nôtre pour lire dans le bruit et la fureur l'histoire hellénistique. Tel est le sens de mon intervention d'aujourd'hui qui évoquera l'approche coloniale appliquée à la définition des rapports noués entre migrants colons venus du monde gréco-macédonien et populations locales soumises en conséquence des conquêtes d'Alexandre et de l'établissement des royaumes de ses successeurs. Sans m'interdire de déborder en deçà et au-delà, je prendrai essentiellement mes exemples dans la période 1880-1950, la période coloniale par excellence, traversée de débats très vifs dans les métropoles et de luttes souvent ouvertes dans les colonies, comme le montre entre autres exemples... Comme le montre entre autres exemples le livre que René Grousset publie en 1924 sous le titre « Le réveil de l'Asie », dont il définit ainsi le projet. Nous allons étudier cette évolution générale qui, partout sous nos yeux, de l'européanisation de l'Asie, fait sortir la révolte de l'Asie contre l'Europe. En 1946, puis en 1949, le même auteur, j'y reviendrai, introduira Alexandre et le monde hellénistique dans sa méditation sur la place de l'Europe dans le monde et sur la perte de son hégémonie politique et culturelle. Les exemples d'interpénétration entre le présent et le passé sont légion. L'on peut dire et montrer en particulier que l'ouvrage de Plutarque sur la fortune d'Alexandre, systématiquement paraphrasé depuis la Renaissance et bien connu des chantres de l'expansion européenne, représente l'un des textes fondateurs de l'idée de mission civilisatrice définie à défaut d'être nommée par Jules Ferry au long d'un discours prononcé devant la Chambre des députés le 28 juillet 1985. Pour s'en convaincre, il suffit de lire « Grandeur et servitude coloniale » ou Albert Sarraut, 1921, fait d'Alexandre, je cite, « l'inventeur génial de la politique indigène d'association », en tirant également des inférences indues d'une vision biaisée de l'Alexandre de l'esprit des lois. Tous ceux qui, dans ces années, s'intéressent à la prise en main du Moyen-Orient par Alexandre et ses successeurs sont amenés à établir des rapports d'analogie avec la situation de la France et de l'Europe face au monde qu'elle conquiert. Ainsi, d'Auguste Boucher-Leclerc, qui, professeur d'histoire ancienne à la Sorbonne, fut aussi en 1883, sous le titre « Histoire de l'hellénisme », le traducteur de la « Geschichte des Hellenismus » de l'historien allemand Johann Gustav Droysen, paru en 1977 à Berlin, que l'on considère depuis lors comme un ouvrage fondateur. Dans la leçon d'ouverture de son cours, le 6 février 1997, Boucher-Leclerc se range du côté de Jules Ferry, sans le nommer, et il proclame « Il y a même un droit de conquête que nous considérons comme légitime en soi, c'est celui que nous exerçons en ce moment même sur des peuples de civilisation inférieure et qui ne sont pas constitués en état régulier. Les peuples civilisés peuvent s'attribuer le droit de civiliser les peuples barbares comme on oblige les enfants à subir les contraintes de l'éducation. » Dans ces conditions, poursuit Boucher-Leclerc, autant les conquêtes de Philippe de Macédoine en Grèce entre peuples civilisés adultes sont injustifiables, autant il en est différemment de son fils Alexandre, ce grand ouvrier de l'histoire qui allait répandre pêle-mêle le sang et la semence intellectuelle et dont l'entreprise s'annonce dès le début comme une œuvre de civilisation et de progrès scientifique. On comprend aisément, à l'inverse, que le discours de Jules Ferry soit dénoncé en introduction d'une étude critique sur Alexandre qu'Alfred Duméril fait paraître en 1893, en s'opposant explicitement, je cite, à un homme d'État de notre pays faisant bon marché de l'égalité des créatures humaines. De même que l'auteur récuse l'idée de l'existence de races inférieures dont le devoir est de vivre dans la suggestion, de même réfute-t-il vigoureusement la thèse selon laquelle Alexandre était préoccupé d'assurer le bonheur et le perfectionnement de l'humanité. On comprend tout aussi bien que dans son Démosthène en 1926, Georges Clemenceau, qui avait marqué publiquement son opposition ferme et rigoureusement argumentée aux déclarations de Jules Ferry en juillet 85 à la Chambre, que Clemenceau dénonce les conquérants en général qui font tuer les hommes quand le problème serait de leur apprendre à vivre, et Alexandre en particulier qui a mené dans le désordre des conquêtes sans fin, sans but déterminé, sans aucun profit pour quiconque. Dès le début des réflexions sur ce qu'il est convenu d'appeler la colonisation hellénistique, la pratique constante veut qu'elle soit menée au miroir du présent. J'emprunte l'expression à l'historien prussien Gustave Droxen, qui, s'exprimant depuis un pays européen, la Prusse, sans engagement colonial, soulignait que, de son point de vue, la colonisation hellénistique n'a pas simplement un intérêt scientifique, elle est d'autant plus importante pour l'une des tâches les plus grandioses du temps présent. Et Droxen, à ce point, d'évoquer le tableau des désolantes monstruosités dues au système de colonisation où se sont essayées depuis 3 siècles les nations chrétiennes de l'Europe. Depuis l'Antiquité, un aspect des migrations colonisation hellénistique a suscité des polémiques très actives, à savoir la nature et l'évolution des rapports noués, de gré ou de force, entre ceux que naguère on dénommait génériquement les peuples indigènes et les colons européens venus en migrants conquérants s'installer et faire souche entre Nil et Siadaria. Dans le même ouvrage, Droxen avait donné son point de vue avec assurance en opposant à la colonisation de l'Europe moderne le système réellement grandiose dont le fondateur, Alexandre, partait de la suppression de toute différence entre vainqueurs et vaincus, du principe de l'égalisation et de la fusion effective. Des discussions ne cessèrent jamais. Tout au long de la première moitié du XXe siècle, on en vint régulièrement à chercher dans la colonisation hellénistique des enseignements pour comprendre le présent des colonies européennes en Afrique et en Asie, et des indices pour scruter leur avenir. La question angoissée étant toujours la même, celle de l'obéissance des peuples colonisés en lien avec leur européanisation, voulue ou fantasmée, au contact des Grecs ayant émigré dans les pays du Moyen-Orient et y formant une couche dominante mais minoritaire. À défaut de la fusion rêvée par Droxen ou de l'assimilation prônée par d'autres, l'européanisation de l'indigène était-elle imaginable, même au miroir de ce qu'on dénommait alors couramment l'hellénisation de l'Orient, titre que l'on trouvait en tête d'innombrables livres et articles. Tel fut le problème le plus fréquemment abordé par les historiens du monde hellénistique, eux-mêmes plongés dans le monde impérial de leur temps et dans ses contradictions. On constate aisément que dans le détail des argumentations, dans le choix de vocabulaire, les deux mondes impériaux se superposent au point de se confondre dans une même interrogation. Au regard de ce que beaucoup considèrent comme étant l'échec de l'hellénisation de l'Orient, est-il raisonnable de croire à la survie du monde impérial de l'Europe présente, une survie qui ne peut être envisagée sans l'établissement durable de rapports harmonieux ou du moins pacifiés entre les migrants conquérants et les colonisés indigènes. C'est là une interrogation qui traverse toute la réflexion sur le sujet. Une crainte fut constamment exprimée par les historiens et par les autres. Des colons grecs installés en Orient restaient-ils grecs ou ne furent-ils pas plutôt, plus ou moins rapidement, asiatisés ? Déjà présente dans les écrits du XVIIIe siècle, par exemple chez l'abbé Mably, dénonçant en 1749 la vision développée l'année précédente par Montesquieu au livre 10 de l'Esprit des lois, une réponse fut donnée avec beaucoup d'assurance par l'historien allemand Georg Niebuhr dans les cours qu'il donna à l'université de Bonn en 1829-1830. Très hostile aux Asiates de son temps comme à ceux d'Antiquité, Niebuhr estime que les Grecs furent soumis à une orientalisation progressive. De son point de vue, les colonies grecques en Orient furent rapidement menacées de disparition, telles des îles au milieu d'un océan barbare. Pour reprendre un texte de l'historien romain Tite Live, qui fut si souvent cité hors contexte dans ce cadre, je cite, « Les Macédoniens qui habitent Alexandrie d'Égypte, Séleucie ou Babylone, et les colonies éparses à travers le monde ont dégénéré en Syriens, en Parthes, en Égyptiens. » Déjà utilisé par l'historien écossais John Gillis en 1786, l'image de la dégénérescence allait faire des ravages chez les analystes de la situation coloniale du présent, vue à la lumière du passé hellénistique. Qui plus est, poursuit Niebuhr, très critique vis-à-vis de la politique du conquérant macédonien, l'orientalisation menaça les métropoles, car, je le cite à nouveau, l'intention d'Alexandre n'était pas d'héléniser l'Asie, mais de persianiser la Grèce. Quelques années plus tard, en 1856, l'historien britannique George Grote reprit la même image ainsi exprimée. Au lieu d'héléniser l'Asie, Alexandre tendit à asiatiser la Macédoine et l'Hellade. Dans ces mêmes années, le comte de Gobineau, dans l'essai sur l'inégalité des races humaines, en 1853-55, puis dans son Histoire des Perses, en 1869, développe la thèse raciale selon laquelle, je cite, « le sang sémitique engloutissait tout, Marathon et Salamine s'effaçaient sous les vénéneux triomphes d'Arbel et d'Issos. » Si bien qu'après Alexandre, je cite toujours Gobineau, les usages et les idées asiatiques s'étendirent jusqu'au pays illyrien. La politique fut syrienne dans les pays de Thémistocle et de Pausanias. On le voit. Au-delà du phénomène de la conquête coloniale, ce qui était en débat, c'était la possibilité de contacts et d'échanges fructueux entre deux entités dénommées génériquement Orient et Occident, thème d'innombrables livres et articles. Les issues possibles de la discussion étaient limitées à une alternative. Ou bien l'Occident, ici la Grèce, l'emporte, on parle alors d'hellénisation ou d'européanisation, ou bien l'Occident est victime d'une dégénérescence causée par l'Orient, ici la Syrie, la Babylonie, on parle alors d'orientalisation ou d'asiatisation. Seul Droxen avait réellement milité en faveur de l'image d'une fusion entre Orient et Occident, une fusion qui, selon lui, s'accomplit pleinement dans la naissance du christianisme. Malgré le renom et le prestige de son œuvre, et malgré une admiration quasi générale pour Alexandre l'Européen, les thèses droxéniennes, sans disparaître, cédèrent du terrain devant la thèse de l'asiatisation, orientalisation, défendue par Niebuhr, par Grote et par tant d'autres. Le même débat parcourt la littérature spécialisée dans la première moitié du XXe siècle, dans une période où il fut nourri également par les résultats des premières fouilles menées sur le site de colonies grecques au Proche-Orient. On pense plus particulièrement à Doura Europos sur l'Euphrate, dans l'actuelle Syrie. En 1926, l'archéologue belge Frans Cumon publia le résultat des fouilles qui avait conduite en 1922-23. Le livre est dédié aux officiers, sous-officiers et soldats du Levant dont le concours a assuré l'exploration archéologique. Partant de l'abondante documentation épigraphique et iconographique déjà recueillie sur le site, Cumon veut mettre en évidence les raisons de ce qu'il dénomme une décomposition intérieure. À cette fin, il avance l'idée d'un afflux constant de sang indigène qui métissait de plus en plus les vieilles familles macédoniennes. En reprenant, sans le dire, une expression inventée par Niebuhr presque un siècle auparavant, il estime que les colonies macédoniennes étaient des îlots européens perdus dans l'océan Asiatique et qu'elles ont cherché à se prémunir contre le danger d'être submergées par le flux des allogènes qui les entouraient. Tel est exprimé le fantasme colonial. La crainte de la submersion, ce pourquoi Niebuhr avait jugé sévèrement Alexandre. Au lieu de laisser les Orientaux à l'écart de l'armée, dans une position de subordination par rapport aux populations helléniques, et donc de conserver aux gréco-macédoniens seuls les privilèges de nations dominantes, Alexandre, selon Niebuhr, avait fait appel aux Perses et aux Iraniens dans l'armée, y compris en position de commandement. Pure folie, estimait Niebuhr, qui opposait une telle politique à celle des Britanniques en Inde, qui, eux, avait certes fait appel aux indigènes sous forme de cipayes, mais sans jamais appeler un Indien à un poste de commande. Observé en miroir, les colonisations hellénistiques européennes continuèrent de susciter remarques et suggestions ancrées dans le présent. C'est la même question que se pose l'historien Elias Bikerman en 1944 au cours d'un article publié dans la revue Renaissance sous le titre « L'européanisation de l'Orient classique ». Sous forme de review article, il commentait très favorablement une somme que l'historien d'origine russe Mikhail Rostozev avait publiée à Oxford en 1941 sur l'histoire économique et sociale du monde hellénistique. Rostozev, qui, après 1928, avait repris les fouilles engagées par Cumont, venait également de publier dans la même revue Renaissance un article intitulé « L'Orient et la civilisation grecque, Doura Europa sur l'Euphrate », en reprenant la métaphore maritime traditionnelle, cet îlot macédonien dans un océan sémitique, mais sous une forme plus ouverte sur les échanges. Il précise en effet que cette cité grecque s'orientalisa, mais dans le même temps que la bourgeoisie sémitique s'hellénisa. L'article de Bikerman aborde le même sujet, mais en lien discursif plus immédiat avec l'actualité de 1944. L'itinéraire personnel de Bikerman et le contexte de production de l'article méritent quelques explications préliminaires qui nous situent au croisement de deux des thèmes de notre colloque, écrit l'histoire des migrations, la session de ce matin, et exode, exil, asile, dont il a été question dans la session d'hier après-midi. Né à Kitchinev, en Ukraine, en 1897, Bikerman, en effet, n'a cessé d'aller d'exil en exil à la suite de celui qui avait été son professeur à Saint-Pétersbourg, à savoir Mikhail Rostozev. Celui-ci avait gagné l'Europe occidentale après 1917, puis avait obtenu des positions académiques aux États-Unis, à Madison, puis à Yale. Bikerman, quant à lui, quitta l'URSS en 1921 et s'installa en France, à Berlin, pardon, avant, en 1933, de devoir gagner la France, où il obtint un poste de chargé de cours à l'école pratique des études et où il publia en 1938 un volume qui reste une référence sur le royaume séleucide. En 1942, les lois anti-juives de Vichy le contraignirent à nouveau à l'exil vers les États-Unis. Il dut obtenir un visa grâce, entre autres, aux recommandations de Rostozev lui-même et surtout grâce à l'intervention du comité américain d'aide aux savants étrangers déplacés, le Emergency Committee Aid for Displaced Foreign Scholars. Rostozev et Bikerman intervinrent, on l'a dit, dans les colonnes de Renaissance, elles-mêmes publiées, je cite l'avertissement daté de 1943, publié par le groupe d'universitaires qui se sont réunis à New York et ont fondé l'école libre des hautes études, afin de poursuivre leurs recherches et de continuer à donner leurs enseignements en français, suivant l'exemple du Collège de France, de l'école des hautes études de Paris et des anciennes universités européennes. Parmi eux, on trouve des noms bien connus, tels le collégien Faucillon, mort à Yale en 1942, Maritain, Coiret, Lévi-Strauss, Gurwitch et tant d'autres. Ils refusent, écrivent-ils, de se considérer comme des réfugiés ou comme des émigrés. Bien au contraire, ajoute-t-il, partageant les valeurs par lesquelles luttent les Nations Unies et la France combattante, ils ont la haute ambition de servir à leur rang et en même temps d'être les simples artisans qui apporteront leur contribution à la restauration de l'édifice de paix qui devra suivre les destructions de la guerre. À son arrivée à New York à la fin de 1942, c'est à cette école libre en exil et à New School for Social Research que l'exilé Bikerman fut rattaché, rejoignant ainsi, outre-Atlantique, tant d'autres hommes et femmes de science et de culture chassés d'Allemagne et de France, dont les parcours, sans mention du cas de Bikerman, ont été analysés avec précision et empathie par Jean-Michel Palmier dans Weimar en exil en 1988 et par Emmanuel Loyer dans Paris-New York en 2005 et dans quelques autres livres. À sa retraite de Columbia, Bikerman gagna Jérusalem, où il mourut en 1980, dernière étape d'une vie d'exil entre Kitchinev, Saint-Pétersbourg, Berlin, Paris, New York, Los Angeles, puis à nouveau New York et enfin Jérusalem. L'article que j'ai évoqué fut publié dans les tomes 3 et 4 de Renaissance, paru en un seul volume en 1944-45. Ce fut le dernier d'une série éphémère. Dès les premiers mots de l'introduction, Bikerman situait clairement son propos sur le passé hellénistique dans le présent le plus contemporain. Je cite. Deux fois dans le cours du temps, la civilisation européenne déborda l'Occident et couvrit l'Orient immobile. De nos jours, et à la suite de la conquête d'Alexandre le Grand, voilà pourquoi à l'époque hellénistique, Les trois siècles qui s'écoulaient entre Alexandre et l'Empire romain attirent aujourd'hui l'attention particulière des historiens et méritent celle du public cultivé qui dépasse le cercle étroit des érudits. La première phrase donnait le ton sur la vision que Bickerman a nourrie toute sa vie sur les rapports de subordination établis, à juste titre de son point de vue, entre l'Europe et le reste du monde, entre Antiquité et époque contemporaine. D'Alexandre à la colonisation des 19e et 20e siècles, la continuité est marquée entre la première et la seconde aventure coloniale qui, l'une et l'autre, apportèrent le progrès à l'Asie immobile. En cela, Bickerman était l'héritier d'un postulat né dans l'historiographie allemande de la seconde partie du XVIIIe siècle, qui voyait en Alexandre un précédent éclatant, puisque, pour reprendre l'expression de plusieurs historiens allemands de cette période, pour la première fois, l'Europe a alors conquis la domination mondiale et elle a rejeté l'Asie dans une position de subordination, un statut d'esclave, disait Niebuhr. Partant, Bickerman veut tirer de la colonisation hellénistique des leçons pour le présent. En opposition de fait avec la vision développée par Niebuhr et par Groth, mais non sans contradiction, il estime que la colonisation hellénistique a conduit à la formation d'une nouvelle Grèce dans l'Orient. Les colons ne sont plus des Européens d'Europe, mais des Européens d'Asie, nés et élevés sur le sol oriental, qui hellénisent l'Asie. Le contraste est violent, ajoute-t-il, avec le monde colonial contemporain. Je le cite. Comparez les effets de l'européanisation moderne de l'Orient. Nous sommes détestés de Casablanca à Canton. Les orientaux ne songent qu'à se débarrasser de notre civilisation, nous ayant emprunté la technique et l'art de la guerre. D'où la réflexion qui suit en contraste. Comment expliquer cette attraction de l'hellénisme, cette persistance de l'européanisation dans l'Orient antique où même Bouddha s'hellénise ? S'interroge l'auteur qui cherche à tirer une leçon positive de ces rapprochements multiples entre passé et présent. Après avoir affirmé que, selon lui, lorsque la barbarie commença à submerger la civilisation antique, ce sont les orientaux qui se trouvent parmi les défenseurs les plus ardents de l'hellénisme, Bickerman émet une hypothèse, quelque peu hardie, mais une hypothèse qui, dans le désespoir de l'exil, maintient une lumière même vacillante, celle d'une victoire à venir sur la barbarie d'aujourd'hui. Pouvons-nous espérer que si les barbares sortis des universités germaniques réussissent une fois à détruire notre civilisation, les idéaux humanitaires seront défendus par un anémite et qu'à Tombouctou, on conservera le souvenir de Racine. Je ne sais. Mais je ne puis oublier que le premier gouverneur colonial qui se ralliait à De Gaulle était un Français noir. Assez peu lucide sur la réalité du temps, la vision coloniale de Bickerman allait se trouver bientôt contredite par l'évolution des rapports entre métropole et colonie après 1945. À l'heure où la Deuxième Guerre mondiale se termine par l'ascension d'une grande puissance asiatique de 400 millions d'hommes, sans doute y a-t-il intérêt à rappeler brièvement l'histoire des rapports politiques entre l'Europe et l'Asie. Ainsi s'exprime René Grousset dans « Bilan d'histoire » qu'il publie en 1946, où il évoque à nouveau l'évolution jugée par lui catastrophique de la situation des colons grecs au Proche-Orient. L'esprit grec a pris à devenir servile, écrit-il. Trois ans plus tard, en 1949, il revint inlassablement sur les mêmes questions dans « Figure de proue », où il consacre un chapitre à Alexandre et le tournant de la civilisation antique. Non seulement Alexandre n'a pas hellénisé l'Orient, mais les Grecs émigrés en Égypte, en Syrie, en Babylonie, sont devenus les sujets de plus en plus serviles des pharaons lagides ou d'un potentat syrien. Et Grousset, à ce point, d'émettre une conclusion qui, selon lui, est adaptée tout aussi bien au passé qu'au présent. Tôt ou tard, le pays colonisé, après avoir largement bénéficié de l'apport des organisateurs, des colonisateurs, se retrouve lui-même avec son âme inchangée. Une vision tout aussi pessimiste, faite de beaucoup de frustration, est proposée en 1949-50 par un spécialiste d'histoire de l'Antiquité, Marcel Launay, dans ses recherches sur les armées hellénistiques, un livre dont l'auteur avait remis un manuscrit à l'éditeur en 1946 et qu'il avait élaboré dans les 10 années précédentes. Sa vision est exprimée avec des mots et des expressions teintées d'un tranquille racisme colonial ordinaire, dont l'auteur n'est pas seul alors à postuler l'évidence dans le sillage des thèses présentées par Léopold de Saussure, Gustave Le Bon, Jules Armand et quelques autres. La conclusion de Launay s'ouvre sur une analogie que l'auteur propose entre ce qu'il appelle le suicide du monde hellénistique et l'Europe qui, depuis une génération, semble en train de se suicider sous nos yeux. L'auteur souligne que ce qu'il croit distinguer comme étant la disparition des Européens de la documentation hellénistique, qui se propose d'expliquer sous la forme d'une alternative dont chacun des termes incite au pessimisme qui l'a construit. Je cite. Ou les Européens ne sont pas doués pour proliférer sous des climats trop chauds. Ou les unions inévitables avec les orientales diluent ou effacent peu à peu les qualités propres de la race et de la culture et jusqu'à la conscience ethnique. On assiste, commente Launay, à un recul général de l'activité et un alanguissement des individus et de la race, ce que France Cumont en 1926 dénommait l'altération de la race dominante. C'est la revanche de l'Orient vaincu, estime enfin Launay dans une formule qui rassemble tout, y compris une condamnation portée contre les multiples métissages auxquels furent contraints les Européens. Il est vrai, pour reprendre les mots de notre historien, que les Européens d'Asie sont atteints d'un mal physiologique, car ils sont fixés sur un ciel plus chaud, d'un type à demi colonial déjà. Tout est dit. Au moment où Bickerman écrit son article et où Launay rédige le sien, son livre, les historiens de l'Antiquité dans l'Allemagne nazie donnent également leur point de vue, déterminé par la certitude exprimée dans Mein Kampf, selon laquelle, je cite, l'histoire établit avec une effroyable évidence que lorsque l'Aryen a mélangé son sang avec celui des peuples inférieurs, le résultat de ce métissage a été la ruine du peuple civilisateur. Dans la suite d'une discussion qui avait été très active dans l'Allemagne wilhelmienne et weimarienne, les historiens d'Alexandre, ralliés au nouveau régime avec armes et bagages, n'eurent aucun mal à s'adapter à la théorie raciste dont ils devinrent des propagandistes zélés. J'évoquerai un seul exemple, celui de l'historien autrichien Fritz Schachermeyer, membre du parti nazi et alors professeur à Graz, en Autriche. Il publie en 1944 un livre sur les rapports entre les Indo-Germains et l'Orient. Alexandre en est l'un des protagonistes. Imprégné des théories de la race et du sang, Schachermeyer condamne comme illégitime l'union entre Alexandre de Barcinet, une métisse gréco-persane. Renchérissant sur un autre historien nazi, Helmut Berve, qui en 1938 justifiait les mariages mixtes irano-macédoniens au motif que les uns et les autres étaient des nordiques, Schachermeyer observe que si l'alliance de sang entre macédoniens et perses n'était certes pas la chose la pire, c'était néanmoins, écrit-il, le premier risque d'abâtardissement qui entraîna le sacrilège biologique, soit la levantinisation du monde habité, autrement dit, un métissage à l'échelle mondiale. Je conclue. Aucun historien des rapports interculturels dans le monde hellénistique ne songerait aujourd'hui à reprendre, même en partie, les explications avancées de manière contradictoire par Bickerman ou par Launay, encore moins celles avancées par Schachermeyer dans son ouvrage de 1944. Les raisons en sont limpides. Non seulement les découvertes archéologiques et les publications épigraphiques ont induit des avancées documentaires décisives, mais également, et d'abord, les bouleversements créés par la Seconde Guerre mondiale, la mise en évidence des massacres de masse perpétrés au nom de théories racistes, la décolonisation et l'émergence de ce qu'on allait bientôt nommer le tiers-monde ont totalement modifié le regard porté sur Alexandre et sur la conquête macédonienne. Au demeurant, dès 1952, dans un compte-rendu détaillé, le grand historien d'Antiquité que fut André Aymar contesta très fermement les postulats de Launay et les interprétations subséquentes jugées par lui pour le moins discutables. Néanmoins, bien que centré sur une période révolue, mon intervention ne relève pas simplement d'une archéologie coloniale des constructions interprétatives, avec lesquelles notre temps n'entretiendrait plus aucun rapport de connivence. Lorsqu'on relit, comme je viens de le faire devant vous, certaines des analyses historiennes d'avant 1950 portant sur la colonisation hellénistique et sur les rapports entre colons et colonisés, on ne peut s'empêcher d'observer que les mots et les images alors utilisées ne nous sont pas étrangers. Ce qu'expriment fondamentalement des expressions comme la marée indigène ou les îlots européens perdus dans l'océan asiatique et menacés de submersion, c'est ce que j'appellerais volontiers la grande peur du métissage et le refus de cohabiter avec l'autre, plus encore de se mélanger avec lui, car le risque de la dégénérescence culturelle, voire ethnique, serait là. Il n'est pas difficile d'observer, hélas, que les 10 expressions restent des éléments constitutifs du vocabulaire de celles et de ceux qui, aujourd'hui, voudraient nous dresser les uns contre les autres. Merci.